Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus et cet épisode exceptionnel, une grande enquête RTL. Et c'est sur les réseaux d'influence russes en France que la rédaction de RTL a décidé de se pencher. Quelles sont les méthodes russes? Les réseaux d'influence passent-ils tous par Moscou et surtout par le Kremlin? Autrement dit, Vladimir Poutine est-il toujours à la manœuvre? Cette influence, ce soft power, comme on l'appelle parfois, est-il un jeu plus subtil, plus diffus? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Dans ce premier épisode, nous allons analyser l'influence sociale, culturelle et politique russe. Pour cela, je suis en compagnie de Thomas Després. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service politique de RTL. Avec vous, nous nous intéresserons aux lobbies, aux réseaux politiques et aux personnalités que les Russes ont approchées ou tenté d'approcher. Je suis Brice Dugénie, grand reporter au service international de RTL. Et enfin, nous recevons Cécile Vessier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Russie, professeur en études russes et soviétiques à l'université de Rennes 2 et autrice de l'ouvrage « Les réseaux du Kremlin en France ». C'est bien ça.
Oui.
Est-il possible, et si oui, comment, de définir l'influence russe à l'étranger? Est-ce qu'il y a une patte russe, une méthode russe?
Écoutez, d'abord, l'influence, on peut la définir très clairement, et ça, que ce soit la Russie ou d'autres pays éventuellement, c'est-à-dire c'est une façon de pouvoir jouer sur des décisions politiques, y compris en jouant sur les sociétés. Là, on a parlé, par exemple, des acteurs politiques, on a parlé des services de renseignement éventuels, mais ça touche aussi, en théorie, la société, et c'est dit explicitement, d'ailleurs, par le Kremlin, qui peut, elle, jouer aussi sur les forces politiques. Donc, la caractéristique, c'est que ce sont des actions qui touchent des publics très divers de façon appropriée à ces publics. Et moi, je dirais, si la touche russe, c'est que d'abord, ça s'inscrit dans une tradition, c'est-à-dire que ça s'inscrit au moins dans une tradition soviétique, dans une histoire soviétique, ce qui d'ailleurs, quand on le prend en compte, nous aide beaucoup. Que des Polonais, par exemple, nous diraient « mais ça s'inscrit aussi dans une tradition impériale, on avait déjà des actions similaires au XIXe siècle ». Et quand on comprend qu'au bout du compte, d'abord il n'y a pas eu de rupture, et la présence d'un ancien officier des services secrets russes à la tête de la Russie en témoigne, Vladimir Poutine, qui était donc formé par le KGB des années 70, ça en témoigne, il y a une reprise de ces méthodes avec utilisation de techniques beaucoup plus modernes sur lesquelles ils sont assez forts.
Vous parliez de la société. Oui. Il y a une expression moderne anglaise qui s'appelle le soft power. Oui. C'est une façon d'influencer à l'étranger avec la culture. On sait que les Américains en sont les spécialistes. Oui. Est-ce que les Russes réussissent à faire ça avec leur culture, peut-être avec leur religion? À Paris, par exemple, il y a deux cathédrales orthodoxes, oui, dont une sur les bords de Seine très visible. Est-ce qu'il y a un soft power russe?
En fait, il y a eu une volonté d'utiliser ce soft power, notamment, vous avez raison, avec la religion. C'est-à-dire que, au moins jusqu'à l'attaque de février 2022, vous aviez des gens de bonne foi, des Français de bonne foi, qui vous disaient « mais regardez, Vladimir Poutine ouvre des églises alors que nous les fermons en France. Regardez, Vladimir Poutine défend les valeurs familiales alors que en France, ces valeurs s'écroulent devant la force des lobbies, woke ou je ne sais quoi. » Dans les faits, c'est complètement contraire à la réalité, au moins pour tout ce qui est valeur familiale. On sait très bien que la démographie s'écroule en Russie, que les gens ne veulent plus faire d'enfants et que les gens émigrent de Russie. Pour tout ce qui est église, ça a marché assez bien. Parce que, je dirais, ces églises représentent deux choses. D'une part, une symbolique assez jolie, parce qu'en théorie c'est joli, une église russe avec des jolies coupoles dorées et des icônes. Et aussi une façon d'influer sur les gens qui vont dans ces églises. Là où on se rend compte qu'il y a, à mon sens, et je le regrette d'une certaine manière, un échec total, c'est pour tout ce qui est la culture, c'est-à-dire que, et là on voit très très bien les limites d'ailleurs du régime russe, c'est-à-dire que une culture actuellement ne peut plus se faire, en tout cas dans les conditions russes, avec une censure partout, avec un contrôle de l'État à tous les niveaux, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a comme cinéma intéressant se faisant en Russie actuellement? Eh bien, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a comme théâtre? Il y avait des très bonnes choses, mais je dirais les théâtres sont en train de virer les uns après les autres les créateurs qui faisaient justement des choses intéressantes. Au niveau littérature, on a pas mal d'écrivains qui ont émigré récemment. Contrairement d'ailleurs, curieusement, à la période soviétique, il y avait un cinéma qui était intéressant. Il n'y avait pas de liberté non plus, mais il y avait un cinéma qui était très intéressant. Actuellement, le soft power russe ne passe plus par la culture.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'autant moins de possibilités d'influencer à l'extérieur qu'à l'intérieur, déjà, il y a une forme de privation de liberté pour créer.
Au niveau de la culture, oui. En revanche, il y a d'autres possibilités, justement parce qu'il n'y a pas de contestation possible, par exemple en Russie. Ça va être les réseaux d'influence, ça va être l'argent. Ça va être les agents qui sont à l'étranger et aussi sur les problèmes et les faiblesses qu'il peut y avoir dans nos sociétés à nous.
Vous faisiez référence tout à l'heure aux affaires. On sait que des hommes d'affaires russes, on en connaît certains d'ailleurs qui sont assez proches de Vladimir Poutine, continuent à faire des affaires au Royaume-Uni, oui. Un peu aux États-Unis, en Europe, oui. Et dans d'autres places maintenant, Dubaï, etc. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est un moyen d'exercer une influence en France ?
Bien sûr. J'irais, il y a deux aspects. Quand vous voyez des oligarques, hein, on va les appeler comme ça, c'est-à-dire des gens qui sont absolument richissimes, qui sont impliqués dans des entreprises russes absolument richissimes, et qui vont proposer, par exemple, à M. Fillon, puisqu'il en a été question, ou à d'autres, l'ancien M. Russie de M. Sarkozy, ou d'autres, je dirais, à droite et à gauche de la politique française, de siéger dans un conseil d'administration. Eh bien, c'est extrêmement tentant. Et quand vous êtes dans un conseil d'administration, comme par exemple M. Schröder, l'ancien chancelier allemand, qui était dans 3 ou 4 d'ailleurs, eh bien vous n'avez pas envie de dire des choses méchantes sur vos amis. Et vous avez envie d'aider vos amis parce que ça vous rapporte, dans le cas de M. Schröder, c'était 1 million d'euros par an sans rien faire. Donc il y a cet aspect-là, c'est tentant, on a envie d'avoir des amis influents et qui peuvent vous rapporter très concrètement de l'argent sans que ce soit illégal. En tout cas, avant la guerre, ça n'avait rien d'illégal. Et je dirais, il y a eu aussi d'autres tentatives qui étaient intéressantes. Et là, on en revient peut-être au soft power dont vous parlez. C'est que beaucoup de ces oligarques ont financé à l'étranger, toujours avant la guerre, non seulement des universités, ça c'était le cas par exemple en Grande-Bretagne et aux États-Unis où ce genre de choses se font, mais aussi beaucoup des musées, des expositions. Vous allez à la Tate Gallery à Londres, elle est en partie financée par un monsieur Blavatnik qui n'a même plus la citoyenneté russe puisqu'il a la citoyenneté, si je ne m'abuse, britannique et américaine, et qui a financé ça comme il a financé des bâtiments à Oxford. Et c'est une façon aussi de blanchir son image et de dire regardez comme la Russie est forte, comme elle peut vous aider. Alors en France, on a un exemple très clair, c'est monsieur Potanine, qui d'ailleurs je crois n'est pas sous sanction. Monsieur Potanine qui avait fait un don absolument spectaculaire au centre Pompidou, des œuvres d'art russe il y a déjà plusieurs années, mais il y avait plusieurs tranches qui étaient prévues. Et ça s'accompagnait de on va faire des rencontres autour de l'art russe, autour de la culture russe. Donc ça, c'est une tentative de soft power. Là où on voit qu'il y a un problème, c'est qu'effectivement, depuis la guerre, Beaubourg a dit non, on n'accepte plus cet argent, on n'accepte plus cette tentative pour blanchir des gens qui, de facto, ont contribué à construire un régime qui est en train de tuer ses voisins.
Je rappelle que la Tate Gallery, c'est un musée d'art moderne à Londres, ouais. Auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Vous nous dites donc que ce soft power, ces moyens d'influence, depuis le début de la guerre, ça devient beaucoup plus compliqué.
Ah oui. Non, c'est beaucoup plus compliqué, si vous voulez, parce que les choses qu'on nommait depuis plusieurs années, c'est-à-dire que tout ça, on le voyait depuis plusieurs années. C'est pour ça que moi, j'avais écrit mon livre qui est paru en 2016. Donc, si vous voulez, c'était déjà mûr. À partir du moment où il y a cette guerre qui n'est justifiée par rien, où on se rend compte que M. Poutine ment autant que faire se peut et qu'il menace non seulement un pays indépendant et souverain, l'Ukraine, au nom d'une soi-disant dénazification, puis de temps en temps ce sont d'autres arguments, où on se rend compte qu'il menace au-delà de l'Ukraine toute une partie de l'Europe centrale et orientale et qu'effectivement il essaie d'influer chez nous et ailleurs, là il y a eu une prise de conscience, c'est-à-dire que M. Poutine et ses alliés n'étaient plus fréquentables. Or on les a laissés faire quand même pendant pas mal de temps, je pense par exemple à la Grande-Bretagne qui a laissé l'argent russe, l'argent des oligarques s'infiltrer partout, dans son système bancaire, dans son système immobilier. Ils ont acheté des propriétés, ils ont acheter des partis politiques.
La Grande-Bretagne, qui a d'ailleurs, au début de l'intervention militaire russe en Ukraine, était un peu embêtée politiquement pour des sanctions.
Sûr.
C'est-à-dire que ça représente énormément d'argent pour les places financières britanniques.
Tout à fait. Mais en même temps, si vous voulez, la Grande-Bretagne, qui avait fini par prendre conscience, avec du retard, mais de manière très nette, qu'on empoisonnait des opposants russes sur son territoire, et qu'elle avait fermé un petit peu les yeux, alors qu'après l'empoisonnement de M. Litvinenko, les choses étaient déjà très claires. Elle avait fermé un peu les yeux en se disant « Mon Dieu, je dirais oui, beaucoup meurent, mais ce sont des hasards malheureux. » La Grande-Bretagne, non, s'est rendue compte que l'argent qui semblait être de l'argent d'hommes d'affaires, de l'argent, je dirais, qu'on peut récupérer, je dirais, en fermant les yeux, puis en se disant « Personne n'est complètement net dans cette histoire », était aussi une arme de corruption. Il n'y a pas que la Grande-Bretagne. Quand vous regardez, par exemple, la Tchéquie, qui actuellement est très, très... et en première ligne, je dirais, pour soutenir l'Ukraine, ou en deuxième ligne pour soutenir l'Ukraine, vous aviez encore des investissements russes majeurs. Vous avez par exemple une ville tout à fait ravissante qui s'appelle Karlovy Vary, où s'organise un festival de cinéma d'ailleurs, qui est une ville russe, c'est-à-dire qu'on parle russe absolument partout. On parle russe dans les hôtels, on parle russe dans les restaurants, toutes les inscriptions sont en tchèque et en russe, et la Tchéquie s'est rendue compte que oui, il fallait agir, c'est-à-dire que depuis la guerre, dans tous les pays d'Europe centrale comme d'Europe occidentale, France comprise, il y a des alliances qui sont des alliances criminelles.
Sur les empoisonnements, vous faites aussi référence à l'affaire Skripal, je suppose, en Grande-Bretagne. Il y avait eu la tentative au Novichok d'empoisonnement. Vous parliez tout à l'heure de Gerhard Schröder, de François Fillon. Oui. C'est cette frontière parfois un peu poreuse entre le monde des affaires et donc le monde politique, parce que les hommes politiques, vous le disiez, pour les décisions qu'ils prennent, font partie de ces personnes, peut-être pas à recruter, ça c'est le mot qu'ils sont employés dans les services de renseignement, mais en tout cas des hommes qu'il faut approcher. Je me tourne vers vous, Thomas Després, du service politique de RTL. D'abord, je voudrais qu'on écoute ce son du 24 mars 2017, où en pleine campagne électorale, en pleine campagne présidentielle, Marine Le Pen s'était rendue à Moscou.
Un petit salon modeste du Kremlin qui sert à des rencontres informelles, mais les caméras sont bien là pour immortaliser l'instant. Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale et elle a du mal à cacher son émotion. Une candidate à l'élection présidentielle qui s'engage à œuvrer pour une levée des sanctions européennes contre Moscou, Vladimir Poutine ne peut qu'approuver, même s'il se défend de toute ingérence dans le scrutin.
Marine Le Pen, donc, en quête d'une crédibilité internationale qui s'était rendue au Kremlin. Thomas Després, Moscou tente... ou réussi à approcher des hommes politiques français. C'est vrai qu'il y a des noms, vous faisiez référence, Madame Bessier, à François Fillon, on pense aussi peut-être à Thierry Mariani, qui sont des noms qui reviennent régulièrement.
On peut évoquer aussi Marion Maréchal Le Pen, On peut évoquer aussi ancien ministre, Maurice Leroy, il y en a plusieurs. Comment ça se passe? C'est un long travail et qui prend finalement plusieurs formes. D'abord, on peut imaginer qu'il y a une première porte d'entrée, qui est à l'Assemblée nationale, un groupe d'amitié franco-russe. J'ai discuté longtemps avec l'ancien président de ce groupe d'amitié franco-russe, Hervé Mariton, qui explique notamment que ça passe par des rencontres organisées à l'ambassade, des rencontres à quelques mètres de l'Assemblée, hein, parce que finalement l'ambassade de Russie en France n'est pas très très loin de l'Assemblée nationale à Paris, des rencontres, des cocktails, des dîners, avec des réceptions qui sont très très généreuses. À ce moment-là, on décrit du champagne, de la vodka, du caviar russe, donc forcément ça donne envie de venir, et puis au cours de ces réceptions...
Un peu comme si on était entre amis.
Exactement. Et au cours de ces réceptions, en fait, les diplomates russes, les membres de l'ambassade, vont aussi tester l'attrait, l'intérêt qu'ont les convives pour leur pays, la Russie. Et puis en plus, ça peut se développer sur des invitations à venir en Russie, officiellement pour des colloques, par exemple, pour venir participer, pour venir donner leur point de vue. Et puis ensuite, ça peut même se développer sur des voyages. On parlait de Thierry Mariani. Thierry Mariani a été au Sénat l'organisateur de plusieurs voyage en Russie, notamment en Crimée, où le financement ne fait guère de doute sur le fait que c'est la Russie qui a payé ces voyages-là, organisés par un sénateur français pour d'autres sénateurs.
Et l'idée, Thomas, si je comprends bien, c'est que ces hommes politiques, à leur retour en France, portent la bonne parole de Moscou, pour faire un petit peu caricatural.
Oui, vous utilisiez tout à l'heure le mot d'agent. En quelque sorte, c'est ça aussi, c'est venir porter la parole russe en France et venir finalement défendre les intérêts. Si on prend le cas par exemple de François Fillon, qui a siégé au conseil d'administration de deux entreprises spécialistes dans la pétrochimie, François Fillon qui, lorsqu'il était Premier ministre, était très proche de Vladimir Poutine, il a été reçu dans sa résidence à Sotchi, il est venu dîner en France Vladimir Poutine à l'hôtel Matignon.
C'est vrai que Vladimir Poutine le recevait presque comme un chef d'État à l'époque.
Voilà, ce qui est peu commun d'ailleurs pour un niveau de Premier ministre. François Fillon, normalement, les relations internationales, ce n'est pas le domaine du Premier ministre. Et François Fillon, qui mettait en garde à l'époque, j'ai retrouvé cette déclaration sur le refus des Occidentaux, c'est-à-dire nous, hein, de prendre en compte les revendications russes sur l'expansion de l'OTAN. On imagine mal un Premier ministre dire ça s'il n'a pas aussi des intérêts ou s'il n'a pas des relations avec ce pays. Donc ça peut se traduire aussi par des prises de position sur le terrain.
C'est d'ailleurs même des propos qu'il a tenus peu de temps après le début de l'invasion russe en Ukraine, si je ne me trompe pas. Il n'est pas revenu. Après, il a un petit peu rétropédalé, mais quelques jours après, il avait rappelé, même s'il condamnait la violence, qu'il y avait aussi un problème avec l'OTAN. Madame Vessier, ce qu'on entend là de ce que nous raconte Thomas Després, est-ce que ça concerne un certain bord politique? Évidemment, les noms qu'on a cités, Thierry Mariani, François Fillon, Marion Maréchal Le Pen, n'appartiennent pas à la même formation politique, mais ils sont plutôt des conservateurs, voire des ultra-conservateurs. Est-ce que c'est vers eux en premier que les Russes se tournent lorsqu'ils veulent influencer la politique française? Et uniquement vers eux?
Non, c'est pas uniquement vers eux du tout. Même si effectivement ces noms sont très caractéristiques. Vous avez par exemple une certaine droite qui va être sensible au discours dont on parlait tout à l'heure sur l'ouverture des églises et sur la soi-disant défense de la famille. Donc si vous voulez, ça va être plutôt bien vu. Ça va être, les Russes, regardez, ils ont des jolies églises. Ils n'y connaissent rien, ils ne sont jamais allés en Russie. Mais c'est quand même très très joli. Donc effectivement, même par rapport à leur électorat, défendre la Russie.
Mais juste son discours, puisque vous parliez des valeurs, oui. Vladimir Poutine insiste énormément ces dernières années sur la famille. Il est contre l'homosexualité.
Tout à fait.
Il dit que le monde occidental est décadent. Et ça résonne aussi chez cet électorat-là.
Voilà, ça résonne dans cet électorat. Donc ça, c'est quelque chose qui marche. Et puis, vous l'avez très très bien dit, c'est-à-dire que sur ce fond qui passe, sur ce fond, on y reviendra aussi, qui est souvent associé à un rejet de l'OTAN, à un rejet des États-Unis et à un rejet éventuel de l'Union européenne. Mais pour en revenir à votre question, il y a un autre narratif qui existe, c'est le narratif hérité de l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie qui a battu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, c'est pas la Russie qui a battu les nazis, c'est l'Union soviétique qui a contribué parmi les alliés à effectivement battre les nazis après avoir été alliés pendant 2 ans avec Hitler et s'être partagé une partie de l'Europe centrale avec lui. Mais la victoire, je dirais, soviétique sur les nazis est incontestable et essentielle, est admirable, parce que des millions de gens ont perdu la vie, notamment parce que Staline avait très mal préparé cette guerre. Et ça, c'est toujours quelque chose qui marche très très bien, par exemple, à gauche et à l'extrême gauche, dans des cercles différents. Donc ça va marcher chez les communistes, chez Renouveau du communisme, et ça va marcher aussi chez la France insoumise. Et quand on ajoute ces narratifs de rejet des États-Unis, de rejet de l'Union européenne et de rejet de l'OTAN, et bien ça c'est commun à l'extrême droite et à l'extrême gauche.
Je me permets de rebondir sur un exemple concret, oui, que vous évoquiez sur les valeurs. J'ai échangé il y a quelques semaines avec l'ancienne présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère. Et ce qu'elle explique, c'est finalement que pendant les combats contre le mariage pour tous, eh bien elle a été contactée à plusieurs reprises par des franco-russes qui étaient notamment en Russie, à Moscou, liés avec le patriarcat de Moscou qui est plutôt proche de Vladimir Poutine, avec justement un discours de lui expliquer « Mais viens expliquer tes combats en Russie, viens donner des interviews à la télévision parce que ces combats-là chez nous, eh bien finalement, ils sont défendus par notre président. » En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ils vont identifier dans la classe politique tous ceux avec qui ils peuvent éventuellement avoir un petit point d'accord, même si c'est le plus petit dénominateur commun. Oui. Leur dire, venez vous exprimer chez nous, parce que chez nous, finalement, on est d'accord avec vous.
C'est donc sur ces mots que se referme le premier volet de cette grande enquête sur les réseaux d'influence russe en France. Merci à Thomas Després, du service politique de RTL, et à vous, Cécile Vessier.
Gauthier, je rappelle que vous êtes professeur en études russes et soviétiques à l'université de Rennes 2. Vous pouvez réécouter cet épisode de Focus sur l'application RTL, sur notre site rtl.fr et sur vos plateformes d'écoute. Vous écoutez, vous commentez, vous notez si vous le souhaitez.